Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle émission des grands entretiens. Marion Godefroy, bonjour.
Bonjour et merci de cette invitation.
Eh bien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historienne, spécialiste d'histoire moderne, auteur de nombreux ouvrages et je suis très heureux de vous recevoir afin de parler d'un sujet qui, de prime abord, semble assez original et certains diront même, ou diraient même, qu'il relève de la petite histoire. Nous allons voir qu'il n'en est rien. Il s'agit de l'histoire des repas, de l'alimentation, de la nourriture. Vous dirigez, Marion Godefroy, une collection chez Payot, la collection dite des biographies gourmandes. 3 tomes sont déjà parus, donc un Jésus de Nazareth de Daniel Bourgeois, Marie-Antoinette de Pierre-Yves Beaurepaire et Winston Churchill de Catherine Arendt Sherman. Et vous allez prochainement publier un Napoléon dans cette même collection. Comment vous est venue, Marion Godefroy, l'idée d'une telle collection ?
Alors, l'idée d'une telle collection, elle naît d'un double désir ou d'un double regard. Première chose, vous le dites assez justement, ça peut sembler de la petite histoire. Mais finalement, pour celui qui écrit, c'est montrer qu'on peut avoir un objet historique d'une construction différente et qu'en prenant cet objet historique-là, on peut renouveler aussi le genre biographique. La biographie, c'était quoi ? C'est prendre la vie d'un personnage de A à Z dans ses moindres détails. Mais du coup, un certain nombre de thèmes que ce personnage peut croiser ne peuvent être qu'embryonnaires dans le récit qu'on en fait, dans la construction, dans les hypothèses qu'on formule. Là, on prend le parti inverse. C'est-à-dire, on prend un angle qui peut sembler petit, qui peut sembler restrictif, mais qui au contraire montre une chose assez claire, c'est que le rapport qu'un homme ou une femme entretient avec la nourriture est à la fois révélateur d'une époque et à la fois symbolique d'un certain nombre de pratiques.
Alors, on est vraiment étonné à prime abord par l'importance des sources. Ces sources, on arrive malgré tout à les trouver en dépit du fait que elles ne sont pas si évidentes que cela. C'est pas, il faut lancer une véritable recherche.
Alors, il faut être d'abord un bon connaisseur, un bon spécialiste de l'époque générale, parce qu'effectivement, dans le métier d'historien, justement, en général, on prend un carton, on a une suite de cartons, on dépouille, on formule des hypothèses. Là, c'est pas du tout pareil. Pour écrire une biographie historique, ça va être un document d'une part, dans une série ou dans une autre, voire dans un autre fond. Il faut savoir que le document existe pour tricoter quelque chose. Donc déjà, il faut avoir cette connaissance globale, finalement, des archives. Et puis après, effectivement, on se rend compte qu'ils sont réguliers, qui peuvent permettre justement de tisser un récit et assez productif. Et c'est à partir de là qu'on construit. Mais ces sources premières existent bel et bien.
Alors, on part de Jésus, on arrive à Marie-Antoinette, soit 18 siècles plus tard. Est-ce qu'il est plus difficile de traiter d'époque médiévale ?
Alors, pour l'instant, il n'y a pas de l'époque médiévale parce que ce n'est censé arriver que si la collection se poursuit dans 2 ans, et j'espère avec un personnage comme Léonard de Vinci ou François Ier. L'idée, elle est aussi de montrer que le personnage n'est pas le prétexte à faire une histoire de l'alimentation ou à une histoire des pratiques alimentaires à telle ou telle époque. C'est vraiment le lien du personnage avec son alimentation qui nous révèle quelque chose et qui permet à chaque lecture de personnages d'avoir un récit extrêmement différent. Jésus, on apprend ce que c'est que finalement rompre avec une pratique culturelle ancienne et avoir un exercice d'une certaine liberté. Marie-Antoinette, c'est la fin de la table aristocratique, entre guillemets, et ce sont d'autres enjeux qui apparaissent pour un souverain. Churchill, c'est un homme qui continue à vivre comme au XIXe siècle et qui réinvestit ses pratiques au XXe. Donc à chaque fois, on a un regard, une écriture et des informations fondamentalement différentes.
On est vraiment étonné de voir que ces personnages correspondent à des périodes charnières, même si les époques de transition se trouvent tout au long de notre histoire. Il ressort de ces livres qu'on est vraiment sur des moments charnières de notre histoire et que la nourriture, le repas, est aussi un révélateur de rite de passage à une nouvelle époque.
Alors, oui et non. C'est-à-dire que quand on travaille sur l'histoire de l'alimentation, l'histoire de la table, on passe bien évidemment par des repas et des repas importants. Pourquoi ? Parce que ça correspond aussi à une certaine société qui fait circuler les informations lors de ces repas. Il y a un savoir-vivre, une représentation, par exemple avec un personnage comme Talleyrand, et les informations qui circulent. Donc, déjà, on est sur une notion qui est beaucoup plus large que celle qu'on pourrait imaginer. Et la deuxième chose, c'est qu'on constate en histoire de l'alimentation qu'on s'affranchit des périodes. On ne peut pas avoir la même rupture entre histoire antique, histoire médiévale, histoire moderne et histoire contemporaine. Et si on parle de l'histoire de la table sous Marie-Antoinette, ça se poursuit quasiment jusqu'en 1840. Et la Révolution française qui est pourtant passée par là.
Napoléon est un homme du XVIIIe siècle.
Alors qu'on l'imagine comme le premier des contemporains. Et inversement. Donc, ces ruptures chronologiques-là ne se valent pas, certainement, parce qu'on est dans des pratiques qui sont celles de l'histoire sociale et de l'histoire culturelle.
Alors, commençons, si vous le voulez bien, par Jésus, donc de Daniel Bourgeois. Et l'auteur commence le livre par une anecdote, je la raconte aux auditeurs, celle d'un homme qui s'adresse à un prêtre, donc qui n'est autre que Daniel Bourgeois, et cet homme, visiblement, sort de la messe et voudrait en savoir plus sur la religion catholique. Et donc, Daniel Bourgeois prend un livre, prend l'évangile selon saint Luc, lui offre, comme cela se fait de façon très classique, et pense qu'il ne reverra jamais l'homme. Et finalement, le personnage revient, deux semaines après, et il lui dit, je cite, « Curieuse, votre histoire de Jésus, on y parle sans arrêt de nourriture et de repas. » Et il est vrai que, alors peut-être que l'on ne s'en rend pas compte, mais pourtant, c'est ce que n'a pas compris d'ailleurs Michel Onfray dans son bouquin « Décadence » sur l'incarnation du Christ. Le Christ est un homme incarné, et même bien avant l'arrivée du Christ, la Bible regorge en quelque sorte des questions liées à la nourriture.
Alors, c'est tout à fait juste. L'anecdote est jolie parce qu'elle montre à la fois ce que c'est que l'exercice d'un curé dans le service après-vente, globalement de ses ouailles, qui peut être parfois, je pense, un petit peu lassant. Et puis, elle pointe du doigt, effectivement, quelque chose qui est, à force de construire une image symbolique, on a construit une image qui est aussi désincarnée. Alors que finalement, le récit, et notamment dans le Nouveau Testament, c'est un homme qui vit, donc qui se lève et qui a besoin de faire fonctionner la machine, c'est-à-dire qu'il a besoin de manger. Or, manger, à cette époque-là, dans ce bassin méditerranéen, c'est pas un acte anodin, selon la tribu, selon le clan auquel on appartient, ou la religion. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est de constater qu'on a un territoire qui n'est pas uniquement un territoire judaïque, qui a les juifs, qui a de nombreux païens, et que tout ça, ça répond à des codes. Et que savoir vivre ensemble, c'est aussi ne pas savoir manger ensemble, ou savoir manger ensemble est aussi significatif. Ça se voit avec des choses comme les pharisiens. Mmh. Et donc, dans cette optique-là, il montre ce qu'a été finalement une prédication. Une prédication, c'est-à-dire se lever le matin, partir parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément contents de ce que vous êtes en train de prêcher, devoir manger, devoir organiser les repas, avec quelqu'un qui va s'occuper de tout cela, qui va être Judas l'Iscariote. C'est-à-dire qu'il y a une vraie organisation pratique, quotidienne, dans la vie de tous les jours, et les évangiles reprennent cette organisation-là. J'ai mangé chez telle personne, on m'a offert telle et telle chose, et Judas l'Iscariote, il a organisé les finances, il a organisé les mets, il a organisé cette vie quotidienne.
Mais d'ailleurs, vous en parlez dans un de vos livres que je n'ai pas cité, hein, L'histoire passe à table, les 50 repas qui ont fait le monde, chez Payot, un livre coécrit avec Xavier Decto.
Oui.
Vous parlez du fait que bien avant l'arrivée de Jésus, l'Ancien Testament regorge encore une fois, pour reprendre l'expression que j'utilisais tout à l'heure, de la question de l'alimentation et même va l'alimentation et les pratiques alimentaires dominent le peuple d'Israël.
Ça domine le peuple d'Israël, c'est une fonction de civilité, et ce qui est présenté dans la Bible, ce n'est pas du tout ce qu'on pourrait imaginer comme une ascèse. C'est-à-dire que les gens mangent même très bien, et effectivement, il y a quelques prophètes, par exemple, la pratique du jeûne, Jean-Baptiste, bon, le miel et les sauterelles, bon, ça, c'est, faut avoir envie.
C'est le seul.
C'est
un des seuls.
C'est justement intéressant, c'est un des seuls. Donc, ça veut dire que ça ne se passe pas comme ça, et toute l'organisation du Shabbat, elle tourne quand même autour, justement, de cette question des repas ensemble et des célébrations ensemble. Donc, on prend le problème à l'inverse, c'est-à-dire qu'est-ce que ça montre au niveau historique, pas seulement théologique, mais au niveau historique. Et cette biographie de Jésus de Nazareth, c'est pas justement un livre qui serait un livre purement de théologie autour de la question fondamentale de l'Eucharistie, puisque c'est quand même quelqu'un à la fin qui dit « mangez-moi », où le pain et le vin auront telle symbolique dans une pratique religieuse, c'est aussi une vie historique sur les imprécations. Et donc s'asseoir, choisir de rompre avec une religion, c'est manger avec des païens, c'est ne plus pratiquer les rites kasher. Alors les rites kasher, c'était quoi? C'est pas simplement des interdits, c'est l'élection, c'est la cuisine de l'élection, c'est-à-dire hop, vous êtes le peuple élu, donc vous montrez que vous êtes le peuple élu par cette purification, par un certain type d'assiette, ça semble pour un profane extrêmement compliqué, mais ça a énormément de sens. Bon, bah, évidemment, quand vous êtes en prédication, que vous partez le matin, que vous revenez le soir avec des romains pas contents ou des rabbins pas contents, vous ne pouvez plus mettre en place ces pratiques et ces rites. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez à la fois une nouvelle spiritualité, une nouvelle religion qui naît et qui s'accompagne d'un affranchissement de rites et culturels et également religieux qui était celui du passé d'un Jésus juif.
Donc l'ouverture aux païens, la fameuse querelle entre Saint Paul et Saint Pierre, qui a lieu à Antioche, si mes souvenirs sont bons, se fait sur une question de nourriture.
Elle se fait sur une question de nourriture. Et ce qui est très intéressant dans ce livre, vous avez un chapitre sur ces premières communautés. Parce que là aussi, c'est le bassin méditerranéen mange, n'a pas attendu Jésus pour manger. Or, il va se diffuser. Et il va se diffuser où, justement? En Asie mineure, en Grèce, où il y a une culture du banquet. C'est-à-dire où les communautés ont l'habitude de ce qu'on appelle un banquet. Alors, ce n'est pas tout à fait une orgie, mais c'est une pratique également différente. Donc. Et là aussi, il va falloir enseigner à Saint-Pierre, Saint-Paul, ce qu'était, ce qu'ils ont reçu et ce qu'ils ont compris de ce nouveau régime alimentaire et ce qu'il doit être dans un autre cadre culturel qui est celui du bassin méditerranéen.
Je reviens d'un point de vue général. On est étonné de voir combien le fait alimentaire, la nourriture, est lié à la religion et à la spiritualité. Il y a une dimension théologique dans le livre qui surprend d'emblée. C'est pas un catalogue des citations du poisson ou bien des citations de telle ou telle viande dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Non, il y a une réflexion théologique. Et le Daniel Bourgeois cite Héraclite, qui dit « les dieux sont aussi dans la cuisine ».
Cuisine, oui. Oui, c'est tout à fait juste. Je pense qu'il a trouvé...
Il y a une simplicité, je me permets de vous couper, il y a une simplicité dans cette expression. « Les dieux sont aussi dans la cuisine ». Mais ce sont des dieux, donc il y a une dimension spirituelle.
Il y a une dimension spirituelle, il y a une incarnation dans ce qu'est la vie de l'homme, et il y a, à mon avis, c'est un livre important parce qu'il a trouvé un fil rouge. Et c'est très curieux finalement, parce que quand je lui ai demandé la bibliographie à laquelle il allait quand même un petit peu s'adosser, il m'a dit en fait il n'y a rien. Alors, comme je suis un petit peu, c'est quand même mon métier, donc je vérifie et je tombe sur un article dans toute la littérature qui avait été fait. Et c'est pour moi assez étonnant que ce sujet-là n'ait jamais finalement été travaillé et soit... il n'est pas occulté, mais c'est comme s'il n'est bien qu'extrêmement présent par la remarque du profane qui vient le trouver après la messe, on ne s'en soit plus soucié par la suite. Alors qu'il est quand même, pour le rite catholique, fondamentale, puisque c'est à l'origine du repas du dimanche. Et d'un rite religieux, mais qui sera aussi, et encore aujourd'hui, un rite social avec les familles qui se retrouvent, etc. Donc, d'une nouvelle temporalité avec la semaine de 7 jours.
La nourriture nous rappelle notre condition corporelle, notre fragilité ?
Elle rappelle la condition première, oui, sans doute. Et elle est le signe d'un certain nombre ou de fonctionnements heureux, de rapports sociaux et culturels, et également de dysfonctionnements. C'est assez révélateur.
Jésus Nazareth, donc Daniel Bourgeois, Payot, c'est le premier, c'est le dernier qui est sorti,
je crois,
à l'heure où nous enregistrons cette émission, c'est-à-dire fin août 2017, c'est le dernier, avant le prochain Napoléon.
Et vous me permettrez d'ajouter quelque chose dans la façon dont c'est écrit d'une manière extrêmement fluide, extrêmement simple, mais extrêmement précise, comme le disait Georges Duby, et en cela c'est absolument remarquable, c'est-à-dire que le lecteur n'est jamais pris en défaut, et au contraire, avance avec une curiosité et un certain bonheur dans un traitement qui est un traitement historique et qui n'est pas un traitement d'une conversion du sujet.
Le banquet ultime, c'est le paradis ?
Peut-être.
Alors, autre tome de la collection, donc biographie gourmande, et là pour le coup on fait un bond dans le temps, c'est Marie-Antoinette. Alors on est dans un autre registre, et il y a une caractéristique chez Marie-Antoinette, c'est que c'est d'abord une étrangère, et donc j'allais dire son premier devoir c'est de s'intégrer à la culture française. Et est-ce qu'il existe au XVIIIe siècle une culture culinaire française telle qu'on parle aujourd'hui de la cuisine française ?
Alors, il existe une culture culinaire qui est extrêmement forte. C'est sûr, elle est très jeune, elle doit s'adapter. Elle arrive quand même extrêmement adolescente, donc elle n'a pas non
plus... Elle a des capacités d'adaptation.
Elle a des capacités d'adaptation. Ce qui m'a frappée quand j'avais dû m'attaquer aussi à ce personnage à titre personnel, c'était d'avoir remarqué finalement qu'elle a eu une éducation culinaire extrêmement stricte, c'est-à-dire avec des principes très diététiques. Une vie au grand air à Schönbrunn. Et je me suis toujours demandé, quand elle avait fait un peu Trianon, etc., dans quelle mesure elle n'avait pas retrouvé les pratiques de son enfance, c'est-à-dire la vie en grand air, une certaine simplicité, et l'absence d'une vie de cour. Là aussi, c'est un personnage à contre-pied, parce que quand on voit Jésus, on se dit, mais qu'est-ce qu'il mange ? Marie-Antoinette n'est pas réputée pour être, parmi les Bourbons, celle qui a le meilleur coup de fourchette. À la limite, sa mère, Marie-Thérèse, on pourrait peut-être plus l'imaginer. Et pourtant, là aussi, c'est extrêmement révélateur. Elle arrive en France à un moment donné où, d'une part, comme vous le faites remarquer, la cuisine française n'est pas à son apogée, mais elle est extrêmement forte, avec des maîtres qui sont extrêmement réputés, des livres de cuisine publiés qui sont de véritables best-sellers et qui se répandent partout. C'est encore le moment où le français domine une partie du monde intellectuel, y compris au niveau du service du maître d'hôtel, donc qui régit la chose la plus importante pour un aristocrate, c'est-à-dire une maison. Et elle doit faire face aussi à ce que c'est que manger pour la famille Bourbon. Manger pour la famille Bourbon, c'est le grand couvert, c'est un repas public, c'est un repas où le roi est couvert, il est chapeauté, et les dames ne peuvent pas l'être, ou ont droit à leur tabouret, ou n'ont pas droit à leur tabouret, et où il marque, là aussi, sa puissance. C'est-à-dire que le roi est en train de manger et les autres attendent. Or, Marie-Antoinette n'a jamais vu faire une telle pratique à la cour. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et elle n'a, contrairement à la dynastie Bourbon, aucune, entre guillemets, appétence pour tout ce qui est la pratique culinaire. Et pourtant, en dépit de ça, c'est à ce moment-là qu'on a des changements, c'est à ce moment-là qu'elle affirme son goût du sucré, c'est à ce moment-là aussi que va... qu'apparaîtront, entre guillemets, des repas plus privés, mais ils apparaissent déjà sous Louis XV, c'est-à-dire seulement une quarantaine de couverts. Et c'est également à ce moment-là que la reine, pour la dernière fois, va devoir montrer ce qui est l'importance d'un repas pour une souveraine lors de ce dernier acte qui se passe à la conciergerie, où on va lui décider de lui retirer sa table. C'est-à-dire on lui retire d'abord dans l'ordre le droit à ses robes, puis on lui retire le droit à sa table. Et je trouve que dans l'histoire de la Révolution française et dans l'histoire de ce personnage, c'est un symbole extrêmement fort que la Révolution se soit attachée en dernier point à retirer tant les mets que les couverts d'une table royale.
Alors c'est l'époque aussi, on l'a oublié, mais c'est l'époque de l'apparition de la pomme de terre.
Alors c'est l'époque de l'apparition de la pomme de terre, mais la pomme de terre, on l'a aussi oubliée, elle n'est pas faite pour être mangée par les petits Parisiens qui auraient faim. Elle est faite pour éviter les famines. Vous avez le roi Leraduri qui a très très bien montré ça dans son Histoire du temps. Il montre qu'en fait, quand vous avez une crise, vous avez une crise des céréales, et la crise des céréales, c'est ne plus pouvoir nourrir une partie du bétail. Globalement, c'est ça. Donc, le challenge numéro un au XVIIIe siècle, c'est comment, en cas de crise, continuer à nourrir du bétail, ne pas tuer dans une famille de Percardie le dernier cochon, parce que c'est celui qui fait la richesse. D'accord ? La pomme de terre, c'est ça. C'est la possibilité de véritablement nourrir les cochons sans taper dans le stock de céréales et donc de passer outre la famine. Alors, malheureusement, on sait que les dernières années, c'est à partir des années 1784, sont au niveau du climat assez désastreuse pour la France et assez désastreuse pour les récoltes. Sans que ça aboutisse à la Révolution française, ce serait du déterminisme, et on n'a pas le droit de dire ça quand on est historien. Mais là aussi, c'est une grande avancée. Et c'est la dernière avancée, finalement, de ces fruits et ces légumes du Nouveau Monde, qui, depuis qu'on les a découverts, sont allés soit sur les tables royales, c'est le cas de la tomate, soit au contraire nourrir du bétail, c'était le cas du maïs.
La légende de la brioche ?
Bah, c'est une légende. Voilà. Je pense que, de toute façon, ça fait partie.
Ouais, elle perdure. Enfin,
Oui. Alors, ouais. C'est les personnages apocryphes, mais néanmoins, elle n'a pas du tout cette idée-là, et elle ne peut même pas comprendre ce que c'est que ça.
Pierre-Yves Beaurepaire dit en fait retrouve l'origine. Hein, l'origine, c'est Rousseau, ni plus
oui,
ni plus ni moins.
Beaucoup, là.
Qui n'aime pas beaucoup la reine. J'ai fait une émission avec Emmanuel de Varesquiel sur les derniers moments de la
oui.
reine Marie-Antoinette, et vous en parliez tout à l'heure, mais l'auteur va jusqu'au dernier bouillon, parce qu'elle il présente son régime alimentaire alors qu'elle est en prison, séparée de son fils. Peut-être une dernière chose sur Marie-Antoinette, j'ai été surpris de voir que on parlait de nouvelle cuisine, mais alors qu'aujourd'hui la nouvelle cuisine finalement c'est se retrouver avec trois petits pois dans son assiette et puis des toutes petites portions. Là, à l'époque, la nouvelle cuisine, c'est véritablement quelque chose de copieux et on mange même au-delà du raisonnable.
Alors, on peut manger au-delà du raisonnable. Ce qui est intéressant, c'est que l'expression nouvelle cuisine, donc de Gault et Millau eux-mêmes, à un moment donné, ont dit, mais je vous signale que cette expression de nouvelle cuisine, on l'utilisait déjà au XVIIIe siècle, parce qu'ils en avaient assez de voir leurs collègues dire nouvelle cuisine. Donc eux-mêmes ont remarqué. Et d'autre part, qu'est-ce que c'est que la nouvelle cuisine à cette époque-là ? C'est vraiment avoir des saveurs extrêmement corsées. Il faut juste se dire une chose quand on est auditeur, c'est aujourd'hui le goût des choses par rapport au XVIIIe siècle. Il est, on se sert du sel globalement, hein, comme d'un exhausteur de goût. C'est pas le cas à l'époque. À l'époque, on part d'un litre de bouillon qu'on va réduire pour avoir une demi-tasse, c'est-à-dire 15 centilitres, et on a une sauce extrêmement corsé, et ça n'a strictement rien à voir en bouche et en longueur de bouche. Et effectivement, elle est la première à avoir cette nouvelle cuisine-là, qui se développera après par la suite, et notamment en pâtisserie.
Donc, Marie-Antoinette, Pierre-Yves Beaurepaire, toujours chez Payot. Nous passons à votre ouvrage, donc, qui sort à la mi-novembre de cette année. Napoléon, on se dit, connaissant un peu le personnage, qu'il considère la cuisine et l'alimentation comme quelque chose de purement utilitaire. Je veux dire, on se dit qu'il a d'autres choses plus sérieuses à faire que de savoir ce qu'il y a dans son assiette.
Mais c'est toujours le même problème avec certains personnages. On se dit tellement de choses qu'on en oublie de regarder comment ça se passe. Ce qui m'a intéressé dans Napoléon, c'est que j'avais trouvé d'abord un très beau dépôt d'archives aux archives départementales de la Marne où, alors, il n'est pas là, entre guillemets. Il a perdu, nous sommes dans les plaines de Vertu, et le tsar Alexandre organise 3 jours de parade et de banquet. C'est quelque chose, c'est une gabegie en termes d'argent qui est assez monumentale, parce qu'il y a plusieurs milliers de soldats qu'il faut nourrir au quotidien. Mais je me suis demandé pourquoi faire une fête aussi importante, pourquoi réquisitionner ceux qui sont alors les extras, les cuisiniers les plus en vue de cette époque-là, et pourquoi imposer surtout ce qu'on appelait à l'époque le service à la russe par rapport au service à la française. C'est-à-dire le moment où l'anecdote devient significative et symbolique de quelque chose. Donc si on a voulu imposer ça, c'est forcément par rapport à un passif. Et quel était ce passif-là avec Napoléon? On écrit qu'il mange mal ou qu'il mange vite. C'est peut-être vrai, mais finalement on n'en sait pas grand-chose, il faut être honnête. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce que ce personnage, qui a toujours eu quand même une conception globale, en termes de droit, en termes de génie militaire, est-ce qu'il avait eu cette conception globale dans ce qui était la table aristocratique? Est-ce qu'il avait voulu faire une table impériale à un moment qui est celui de recomposition des élites sociales? Et à partir de là, on gratte un petit peu et on se rend compte qu'il fait une étiquette, qui est une étiquette assez précise. Et puis on se rend compte que même quand il part en campagne, et ben il part en campagne avec une berline, avec ses cuisiniers, avec une autre qui est le matériel de cuisine, que ça demande un certain nombre de réquisitions, et qu'il ne sacrifie pas à sa personne, qui est la personne d'un empereur. Et qu'un empereur dîne d'une certaine manière, soupe d'une certaine manière, on lui présente un certain type de mets, et tout ce qui sera désormais l'étiquette et la table aristocratique seront inscrits et seront le fait de chroniques, de passages dans les mémoires de l'époque.
Donc on ne peut pas séparer le chef militaire de l'empereur pour qui l'étiquette est importante?
Non, je pense qu'on ne peut pas séparer les deux et on ne peut pas le séparer très tôt. C'est-à-dire, ce qui m'étonne, c'est que dès le directoire, il y a un sens de la mise en scène qui est important à travers justement les banquets. On a toujours fait beaucoup de banquets en France, mais lui, il fait des banquets pour sa garde et il les fait, par exemple, sur l'avenue des Champs-Élysées, avec au rond-point l'état-major qui est présent, et ça donne lieu à des gravures. Les gravures, c'est quand même, bon, c'est pas le Paris Match de l'époque, mais ça circule. Donc c'est aussi une manière de montrer les choses. La récompense à travers un repas important. Les banquets qu'il donne durant le Second Empire sont extrêmement rares et sont quasiment calqués sur ceux qui se déroulaient sous l'Ancien Régime. Donc il y a une conception qui est une conception globale. Et ça se voit plus encore, certes, quand il est un soldat, mais surtout quand il est un empereur déchu. C'est-à-dire tenir à ce point, à ce qu'il y ait un cuisinier, à ce que sa table soit servie et à ce qu'elle soit convenablement servie, parce que c'est Pauline qui essaye de lui envoyer un cuisinier, c'est le cuisinier qui part dans la ville principale pour trouver d'autres denrées que ceux que les Anglais lui donnent, est très loin d'être une anecdote, mais révélateur, comme Marie-Antoinette, de ce qu'est un statut et comment on exerce ce statut et à quel moment. Eh bien, on l'exerce aussi en mangeant.
On peut vouloir tuer l'empereur. Est-ce que il y avait, comme on avait avant au temps médiévaux ou bien à l'époque de la romanité, des goûteurs?
Alors, il y a eu longtemps des goûteurs. J'en ai pas trouvé dans le cas de Napoléon. Pierre Branda, qui est également un très fin connaisseur de cette époque-là, avec qui j'ai discuté longuement, on a quand même quelques lettres de Fouché qui indiquent justement que le gâteau est empoisonné, qu'il doit faire très attention à sa nourriture, etc. C'est peut-être pour ça aussi, vu qu'on a quand même souvent attenté à la vie de Napoléon et un petit peu de toutes les manières qu'il soit, il restait finalement plus qu'à empoisonner la nourriture. Mais ça ne s'est pas fait. Je n'ai pas trouvé de goûteur et rien ne dit que ça a été un enjeu majeur à un moment donné de la constitution des repas.
La meilleure table à l'époque, c'est celle de Talleyrand?
Ou celle de Murat. Talleyrand, effectivement, pourquoi est-ce qu'il a une meilleure table, Talleyrand? Parce que Talleyrand fait tout venir de son domaine. Et il connaît tout par cœur, c'est-à-dire il connaît les meilleurs vins, il connaît les meilleurs poissons, il connaît les meilleurs fruits. Les autres tables des autres princes de cette nouvelle noblesse, ce sont des fournisseurs parisiens et c'est quand même un petit peu moins bon.
Il y a eu le film, le fameux souper.
C'est très intéressant dans ce que je disais, de ce qui est la conception d'une biographie gourmande, que ça soit un souper, que se rencontrent deux personnes et qu'elles le fassent justement alors qu'elles sont en train de manger et qu'elles discutent de politique. Mmh. Et c'est tout sauf annexe. Et la personne qui sert ce repas est l'un des premiers cuisiniers, Antonin Carême, dont de nombreux chefs, et le premier étant Auguste Escoffier, se réclameront presque un siècle plus tard.
Il y a une nouvelle sociabilité qui se crée à cette époque. Vous parlez des restaurants qui apparaissent en...
Non, la nouvelle sociabilité, à mon sens, dans les hypothèses que je formule, elle n'existe pas encore dans les restaurants. Les restaurants, c'est un moment de passage, c'était un moment de grignoter parce qu'on reculait l'heure des repas qui passait vers 14 heures. Mais la sociabilité, elle reste encore dans les invitations, qui sont dans les hôtels particuliers et chez une partie de cette haute aristocratie, et elle demeurera quasiment jusque dans les années 1840-1850.
Alors évidemment, il y a une dimension diplomatique et politique dans ces repas, et elle ressort plus que jamais avec le dernier ouvrage donc de Catherine Herren-Sherman, Winston Churchill. On a bien évidemment une vision de Churchill... le grand politique, le grand buveur et jamais de sport. Et on se demande comment ce personnage qui a vécu 90 ans a pu tenir dans ces conditions.
Alors, c'est pas qu'un grand buveur, je dirais que c'est le grand siphonneur des caves des amis chez lesquels il s'invite. Et vu qu'il s'y invite pendant 3 mois, il vaut mieux renouveler le stock de champagne, de whisky et de tout ce qu'on peut pendant un certain temps. Mais il buvait pas tant que ça. Alors, la première chose, c'est qu'on oublie que c'est un homme qui a fait par exemple la guerre des bourgs et qui a donc un passé colonial. Et quand vous avez ce passé colonial là, vous avez systématiquement l'habitude ou de boire du vin, ça vous évite de claquer avec tout ce qu'il y a dans l'eau, ou de couper votre eau avec du gin et du whisky. Ce qu'il faisait, il prenait rarement les alcools qui sont purs. C'est, à l'exception du vin, il coupait avec de l'eau ou avec un soda. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est la figure type de l'aristocrate du règne victorien. Il naît à une époque où on en est encore à recevoir en petit dîner, 70 couverts, 72 couverts minimum, sur la table d'acajou, surtout sans nappe, parce que sinon ça fait bourgeois, et avec cette culture et cette pratique-là. Et il continue d'avoir et cette culture et cette pratique. Il y a un moment qui est pour moi extrêmement intéressant, c'est le moment de Téhéran.
La conférence de Téhéran.
Les trois hommes, donc c'est-à-dire à la fois Churchill, à la fois Roosevelt et à la fois Staline sont là. Chacun va offrir un repas aux autres. Or, qu'est-ce qui se passe ? Churchill, lorsqu'il offre le repas à l'intention de Staline, demande à ce qu'on compose un repas typique géorgien. Donc, il honore comme on aurait honoré à l'époque victorienne. Vous venez de tel pays, on vous fait la nourriture de tel pays pour vous présenter, pour montrer l'importance que vous avez. Roosevelt, il s'en fout. Il s'en fout complètement. Il va leur servir du poulet frit. Donc, vous avez déjà là une rupture culturelle et sociale de ce que seront les deux mondes d'après-guerre. Et la manière dont l'Angleterre, elle va tenir, parce qu'elle a un certain nombre de symboles, effectivement, qui sont extrêmement anciens, mais c'est complètement terminé. Et la manière de recevoir des Américains est extrêmement différente de cette ancienne Europe. Ça reprend finalement cette autre anecdote qui était celle Benjamin Franklin, qui quand il était venu à Paris faisait exprès de manger de manière entre guillemets très simple, c'est-à-dire avec peu de service, ou de sucer ses asperges avec les doigts, c'est-à-dire montrer ce que c'était que les pratiques sociales dans le Nouveau Monde par rapport à ce qu'il imaginait la pratique guindée et surtout morte de l'ancien monde qu'il visitait.
Alors ce sont donc des moments très politiques pendant lesquels on ne travaille pas forcément. Bien sûr, c'est important, mais ce qui m'a surpris, c'est de voir que, au fond, le secret de Churchill, c'est sa sieste, ce qui lui permettait le soir de vivre ses banquets. Après, il passait au fumoir et Après, vers le coup d'une heure du matin, il se mettait à travailler.
Oui, c'est... alors on est quand même sur des constitutions qui sont absolument remarquables, c'est-à-dire qu'aucun homme ne pourrait supporter ce que lui a supporté avec, et ses artères non plus, je dirais. Et c'est probablement parce qu'il a eu cette constitution-là qu'il a continué d'avoir ce rythme de vie-là. Mais effectivement, comme le montre Catherine Arendt, la sieste est un moment absolument incontournable, et c'est grâce à cela qu'il va épuiser nombre de ses conseillers qui, eux, n'arrivent absolument pas à suivre le rythme.
La cuisinière de Roosevelt et Eleanor Roosevelt avaient visiblement beaucoup moins de goût et beaucoup moins de subtilité que la cuisinière de Churchill.
Oui, et ce qui est très curieux, c'est que finalement ont été publiées les mémoires de la cuisinière de Churchill, et ça a été un best-seller en Angleterre. C'est-à-dire que là aussi, c'est intéressant de voir la représentation d'un personnage dans l'image publique qui très tôt apparaît, c'est pas un jouisseur, etc., mais comme extrêmement raffiné. Et donc quand sa cuisinière publie, on imagine qu'effectivement c'est le meilleur et de bon ton, et on se rue sur ce qu'elle peut proposer.
Je voudrais lire un morceau de la conclusion. Churchill est en face de Fields, qui est son majordome à la Maison Blanche, et il s'adresse à lui en disant: Fields, je veux vous demander quelque chose, mais certainement, monsieur le Premier ministre, je ferai mon possible. Et Churchill de dire: dans des années, quand on vous demandera si Winston Churchill s'abstenait de boire, je veux que vous preniez ma défense. Et Fields de répondre: monsieur le Premier ministre, je vous défendrai jusqu'à la dernière goutte.
Oui, c'est vrai. Et j'ai le souvenir également d'une autre très jolie anecdote qui figure dans l'introduction, où ils sont à bord d'un paquebot avec des Américains et comme seuls savent le faire les Anglais, c'est-à-dire qu'il lance un défi, c'est quel est le volume de tout ce qu'a bu Winston Churchill jusqu'à ce jour-là. Et très sérieusement, les ingénieurs se mettent à calculer, et Churchill est dépité, puisque ça ne correspond finalement en volume qu'à la moitié de la salle du car où ils sont en train de dîner, alors qu'il imaginait qu'il avait le bateau tout entier rempli d'alcool, de gin, de champagne, de toutes sortes.
Il y a peu de choses sur De Gaulle finalement, il y a beaucoup de choses sur Roosevelt. Roosevelt, la relation avec Roosevelt, oui, vous avez parlé de la conférence de Téhéran.
Oui, alors que finalement c'est vrai qu'il y a peu de choses sur De Gaulle, parce que c'est dommage, mais pourtant il y aurait certainement beaucoup de choses à dire. Par exemple, le repas qu'ils ont eu juste avant l'appel du 18 juin, les multiples repas de sociabilité, et notamment au moment où ils reviennent en France. Mais bon, c'est peut-être une petite lacune pour l'instant des archives que les historiens combleront rapidement.
Alors je voudrais terminer cette émission en évoquant l'histoire passe à table, les 50 repas qui ont fait Le Monde. C'est un ouvrage qui a été publié en 2016. Comment vous avez fait pour choisir tel ou tel repas, telle ou telle recette, qui sont des recettes historiques, qui s'inscrivent véritablement dans l'histoire à la fois culturelle, politique, religieuse et même sociétale, puisque vous parlez d'une recette qui est faite par je ne sais plus quel chanteur, je crois que c'est Elvis.
Rencontre entre Elvis et Elvis Presley et les Beatles.
Voilà, exactement.
Avec les Mimosa.
Les Mimosa.
Alors, si vous voulez, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même démarche. C'est construire un objet historique et montrer effectivement que, à ce moment-là, c'est révélateur de quelque chose qui se passe dans l'histoire. C'est pas pour rien qu'on mange ensemble. Alors, les recettes, effectivement, ça, on les a revues et on les a réadaptées, parce que jusque dans les années 1830, vous n'avez ni grammage ni temps de cuisson. Donc ça nous a nécessité des essais nombreux et une note de frais assez intéressante pour un éditeur de livres d'histoire qui a vu arriver des choses qu'il ne pensait jamais voir arriver en termes de documentation, comme des champignons ou des kilos de sucre. Et l'idée principale était vraiment là. On partait quasiment de la période antique, avec Tibère et avec Apicius, pour poursuivre et montrer à chaque fois un repas clé qui a suscité des commentaires chez les mémorialistes. C'est aussi comme ça qu'on sait qu'il a existé et qu'on sait précisément ce qui s'est passé. Et à partir de là, nous, notre travail est de commenter et de dresser un fil rouge qui est un fil pour Xavier Decteau, qui est très culturel, et pour moi, qui est très politique, puisque je suis quand même une historienne du politique.
Ce qui n'empêche pas le sens de l'humour, et c'est ce qui ressort autant de votre Napoléon que de celui-ci, où vous donnez quelques conseils culinaires. Vous divisez le monde en trois parties, les barbares qui utilisent oignons et échalotes roses ensemble,
oui.
Les centristes mous qui utilisent oignons et ail, et les civilisés, pardon, qui, eux, utilisent échalotes grises
de Bretagne
et ail à bon entendeur.
Voilà, un bon entendeur, salut.
Merci beaucoup, Marion Godefroy.
Merci à vous.
Pour cette passion de la table et ces recherches historiques sur ces personnages. Donc, Marie-Antoinette de Pierre-Yves Beaurepaire, historien, Daniel Bourgeois.
L'excellent Pierre-Yves Beaurepaire.
Exactement. Jésus de Nazareth, Winston Churchill de Catherine Arendt, l'histoire passe à table donc de vous-même et de Xavier Decteau, et enfin votre Napoléon qui sort au mois de novembre dans cette belle collection des biographies gourmandes de chez Payot. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Grands Entretiens, et je remercie comme de coutume Georges à la technique. Merci.